Le peloton RMC.
Georges Quirino.
Salut à toutes et tous, ravi de vous retrouver dans le peloton RMC. Prenez place avec nous dans votre podcast cyclisme RMC. Vous êtes de plus en plus nombreux, la communauté s'élargit. On a un gros peloton là, attention hein, aux uns aux autres. Mais voilà, la discussion commence à vraiment avoir lieu sur les différents réseaux sociaux. On en est ravis de débattre avec vous. On voit qu'il y a quelques opinions qui font réagir. On va en parler dans un instant. En tout cas, rejoignez-nous sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook, @pelotonRMC, pour avoir également les dernières informations. On va peut-être même vous faire gagner 2-3 choses pendant l'année. Restez connectés. Ça vaut le coup, évidemment. Composition du peloton RMC. Notre leader s'appelle Jérôme Pinault. Salut, Jérôme.
Salut, Georges. Salut, les copains.
Ça va, GG?
Ça va très, très bien.
Tu roules un peu, là, à la sortie de la séquence caniculaire
J'ai roulé un peu pendant la canicule, j'ai roulé un peu moins là, mais je prépare le semi-marathon de la Côte d'Amour, donc je cours à pied.
Oh, allez, c'est vrai?
Eh oui.
Mais c'est à moi ça, les anciens cyclistes qui courent. Hein.
Alors là, moi, c'est vraiment parce que, si tu veux, c'est à la maison, je galope, je me dis, allez, un petit objectif pour une perte de poids, il faut ça pour perdre du poids, garder la ligne.
Ah oui, puis d'accord. Le décor du semi-marathon de la Côte d'Amour, c'est magnifique. Hein.
Déjà, c'est très sympa.
Déjà,
très
le
sympa.
Nom, ça donne envie, tu vois.
Oui.
Le semi-marathon de la Côte d'Amour. En plus, toi, t'as que de l'amour à donner. On le sait, Jérôme. T'as un cœur grand comme ça, comme on dit. Maxime Martinez, je l'avais entendu. Ça va, Maxime?
Salut, Georges, salut à toutes et à tous.
T'es excité là avant la Vuelta?
Ouais,
ouais,
vous allez voir.
Pierre Cotchette est là. Alors Pierre Cotchette qui a dit ses 4 vérités à Tadej Pogacar sur sa présence à la Vuelta, voilà.
Et qui a du coup, enflammé les réseaux sociaux du peloton RMC.
C'est ça.
Du coup, voilà, toute la team UAE et toute la Slovénie m'en veut. Donc en fait, je suis Matteo Jorgensen maintenant.
Ah oui,
ah oui.
Tu
peux plus partir en échappée, c'est terminé.
Ouais, voilà. Si Mauro Gianetti veut venir d'ailleurs droit de réponse à ce que tu as dit sur Tadej Pogacar la semaine dernière, il peut venir. Le débat qui agite le peloton RMC, bah justement, c'est difficile de ne pas en parler du tout, hein, de Poggi et de la Vuelta, mais là on va rentrer vraiment dans une présentation du Tour d'Espagne qui va commencer ce samedi avec un chrono individuel à Monaco, et oui, dans la principauté monégasque. C'est juste, bon, on s'est dit en fait, Tadej, tant qu'à faire, puisque tu participes, on va partir en bas de chez toi, au moins c'est beaucoup plus simple. La question, c'est que va laisser Pogacar aux autres sur la Vuelta qui débute donc ce samedi. Mais avant ton briefing, Jérôme, comme tous les lundis au moment où on enregistre ce podcast, on est lundi et c'est aujourd'hui qu'on a eu l'officialisation d'une information qui tournait déjà depuis quelques jours. C'est que la saison est terminée pour Jonas Vingegaard. On se rappelle, il a chuté lors de la deuxième semaine du Tour de France, fracture de la clavicule, encore en train de récupérer. On pouvait espérer le voir peut-être sur les championnats du monde, même s'il n'a jamais participé à la course arc-en-ciel, mais il y a un beau parcours à Montréal cette année. On ne le reverra plus de la saison, Jérôme. Bon. C'est un coup dur pour les mondiaux ou pas?
Non, parce qu'on le sait, Jonas Vingegaard, déjà cette année, il a beaucoup couru par rapport aux années précédentes. Il a enchaîné Giro Tour de France et il est blessé. On le sait, pour se remettre, c'est un garçon qui a beaucoup, beaucoup besoin de travailler, d'aller en stage. Donc c'est vraiment très compliqué pour lui de se remettre avant un objectif d'une course d'une journée d'un championnat du monde. Il faut courir avant, il faut être prêt, et je crois que même ses collègues de l'équipe danoise, notamment Pedersen, a signifié qu'il valait mieux qu'il ne vienne pas laisser sa place à Pedersen
sympa,
et à Skelmoser, ouais, sympa, et ne pas prendre la place, parce qu'un garçon comme ça, s'il vient, il doit être leader et apporter énormément. S'il vient en méforme, bon, il est plutôt contre-productif, comme il l'avait été l'an dernier, rappelez-vous, cette catastrophe
aux Europes à Valence. Hein. C'était une catastrophe.
C'est
des courses qui ne lui conviennent pas de toute façon, que ce soit les classiques ou les championnats, ça ne convient pas à Vingegaard. Il aurait eu tort de... Allez, hop, rideau, bonne fin de saison, au revoir, merci beaucoup. J'ai gagné le Giro cette année, au moins saison est réussie.
C'est le coureur de classement général des années 90-2000,
ah,
quoi. Celui qui n'a rien à faire sur une course d'un jour.
Complètement, c'est exactement ça.
Ouais. Pierre, quel regard en fait on peut avoir sur la saison de Vingegaard maintenant qu'elle est terminée? Parce que c'est ça aussi, hein. Il a gagné le Giro. Il a essayé de vendre, en tout cas dans sa communication aussi, une rivalité possible avec Poggi sur le Tour. Finalement,
ça c'est plutôt raté.
Non, moi je trouve qu'il a. Alors,
il a fait une belle saison.
Il a maximisé absolument tout ce qu'il avait prévu de faire. Alors déjà, il faut rappeler que sa saison elle a commencé tard. Parce qu'il devait faire le Tour UAE, etc. Il est tombé. Oui. Souvenez-vous, la chute à cause
d'un... Avec l'amateur.
À côté, enfin, vaguement parce qu'il était suivi par un amateur, bref.
Par Pierre Cochette, a priori, c'était Pierre Cochette.
J'allais pas du tout à celui. J'aimerais bien. Mais, bref, un amateur qui a un jeune espoir, hein, quand même. Bref, mais donc il a commencé tard, il a changé son programme, mais il a quand même réussi à gagner le Dauphiné. Il a, pas le Dauphiné, pardon,
Paris-Nice. Catalogne.
Il a gagné Catalogne, il a gagné le Giro.
Il est allé sur les terrains où il n'était jamais allé.
Voilà, et sur le donc il a augmenté le palmarès de façon significative, et il a tenu son rang dans le Tour de France. Il a tenu sa deuxième place à peu près sans contestation, jusqu'au moment où... où il a été rattrapé par...
Oui. On ne saura jamais ce qu'il aurait fait la troisième semaine.
Non, mais on aurait... Enfin, jusque-là, il avait tenu son rang de deuxième place, qui était ce qu'il pouvait espérer de mieux au vu de la condition de Pogacar, et ce qui était un peu prévu dans la mesure où il avait dit je fais le Giro et je ferai de mon mieux sur le Tour de France, de mon mieux étant la deuxième place, sauf si Poggi se loupe.
Mais alors, vous savez ce que je me suis dit, moi, je ne sais pas vous, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui va l'animer, en fait, Vingegaard, maintenant? C'est-à-dire que là, j'ai l'impression, ça y est, il a fini la saison, effectivement, il allait sur les terrains où il n'était jamais allé, il a gagné le Giro, il a gagné
il
les
a
courses.
Il a intégré le club des vainqueurs des trois grands tours.
Tu l'as dit tout à l'heure sur les courses d'un jour. Bon,
il
a à peu près tout gagné. Bah,
qu'est-ce qui peut l'animer, enfin, c'est venir justement
aller faire. Il a 29 ans, hein, Vingegaard. Hein, donc, qu'est-ce que peut être la feuille de route emballante pour lui, pour se relancer, pour se remotiver?
Prendre des risques. Je crois que sa femme voudrait qu'il aille moins en stage en altitude parce que ça lui pèse psychologiquement et que le vélo soit plus simple pour lui. Donc, pourquoi pas se lancer un défi de course d'un jour? Je suis pas d'accord avec Maxime quand il dit c'est pas son truc. Il a jamais trop essayé. On va partir de là. Je pense qu'un Liège-Bastogne-Liège et qu'un Tour de Lombardie sont largement à la mesure d'un coureur comme lui. Alors évidemment, et à chaque fois il y a Pogacar, mais faut au moins qu'il essaye. Et moi je pense que ça peut le tenir de mettre ce genre de course là à son programme, au moins à son programme, de venir s'y essayer. Et après, continuer à essayer de venir remporter un deuxième, un troisième Tour de France. Pourquoi ne pas battre un jour Pogacar? On a quand même compris sur les 15 premiers jours du Tour, en ayant fait le Giro.
Tu crois encore? En fait, moi je l'ai défendu toute l'année, hein, Vingegaard. Hein,
non mais garçon,
s'il arrive
quelque chose un jour, trop, hein. on se dit quand même que un jour Poggi aura peut-être un problème sur un Tour.
Oui.
Et s'il lui arrive un problème, ça doit être lui le deuxième. Et donc il doit continuer à espérer cela. Mais le reste, battre à la pédale Pogacar, il a bien compris que ce n'était pas possible. Moi, je pense que ce sera intéressant de le voir quand même sur les courses d'un jour, pour voir ce qu'il peut donner sur des courses très difficiles.
Alors, j'ai des doutes sur Liège pour lui, vu l'état des routes et ce que ça demande en maniement de vélo dans les descentes.
J'imagine
notamment.
Jouer des coudes pour se placer au bas de la redoute.
Mais bon, ça c'est. Mais après, j'aimerais bien qu'il essaye vraiment, parce que les courses d'un jour que je l'ai vu faire, c'est, et notamment je l'ai vu sur la Classica. Quand tu bâches comme ça dans un truc qui est même pas si difficile que ça, et que alors qu'il y a 100 personnes encore dans le peloton, c'est un peu gênant. Mais
il va avoir 30 ans, tu penses qu'il va avoir envie de faire ça?
La question, c'est pas forcément quels sont les challenges pour Vingegaard, c'est qu'est-ce que son équipe, qui est en grande difficulté financière, ce qui est un peu bizarre, ou ce qui titille beaucoup, c'est que dans le même temps, on annonce que la saison de Vingegaard, qui est un des top 3 mondiaux, top 5 mondiaux, est déjà fini alors qu'on est le 17 août, et que dans le même temps, il recrute Fabio Jacobsen.
Alors,
Donc c'est là, alors, tu dis, voilà, Visma, c'est dur là, c'est dur. Et je sais pas, donc on avait déjà dit au début de saison, il va falloir qu'il court plus parce que il n'y a plus grand monde à la Visma, et que si tu veux être la deuxième, troisième top team du monde, il va falloir quand même. Et est-ce que son patron, est-ce que son encadrement vont être d'accord pour le payer ce salaire-là, et qu'il fasse aussi peu de courses, et que effectivement il soit aussi peu présent sur un cyclisme qui est tout au long de l'année. Moi, la question, elle est un peu ce que veut Vingegaard, mais un peu beaucoup ce que veut Richard Plugge.
Ce que veut Plugge, il y a quand même une rumeur lancinante depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, d'une arrivée de Vingegaard à moyen terme chez Uno X, qui est l'équipe scandinave. Et pour avoir un leader scandinave dans l'équipe scandinave.
Ce serait une régression pour Vingegaard, les gars.
Totalement. ce serait une régression. Ce sera un très beau coup pour Hinault.
Ah non, mais bien sûr.
Ce serait une régression pour
Pourquoi une régression? Pourquoi une régression?
Parce qu'ils si, ont, si. Ont pas la même, ils ont pas les, la même structure.
Tout dépendra de ce qu'il veut faire.
Pour construire un vainqueur de tour ou un vainqueur de grand tour.
Est-ce qu'ils vont avoir une équipe qui est capable de d'emmener un Vingegaard vers une victoire sur un grand tour?
Pour alors j'ai la réponse papier, à ça. J'ai la réponse à ça. J'ai croisé Torruchov sur les Champs-Élysées en rejoignant le studio. Tor avec qui j'ai couru, donc c'est pas un pote, mais on s'entend très bien. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, écoute, vous en êtes où? Est-ce que tu veux vraiment embaucher Jonas Vingegaard? Il m'a dit, lui, oui, mais on n'a pas l'équipe pour ça et ça nous coûterait trop cher d'avoir une équipe autour de lui. Mais voilà ce qu'il a répondu.
Mais en fait, c'est pour ça que c'est pas dans les plans. Tu peux pas construire quelque chose.
Oui, bien sûr, tu as raison. S'il vient tout seul dans l'équipe actuelle, il n'y a pas de sens. Maintenant, je ne serais pas surpris de le voir venir dans une équipe Uno X pour développer une équipe autour de lui, avoir peut-être moins d'ambition personnelle, mais transmettre. Je serais vraiment pas surpris de le voir
en capitaine de route.
Le voir finir dans une équipe comme ça, dire voilà, je mets mes ambitions personnelles de côté sur certaines très grandes courses, mais je veux apporter à l'équipe c'est pas de son pays parce que c'est norvégien à la base,
mais dans culturellement, cette,
culturellement proche. C'est très proche. Oui. Je serais vraiment pas étonné, ça lui permettrait à la fois de moins partir de la maison, d'avoir cette prépa atypique qu'ils ont tous chez Uno X et de faire partir quand même d'une très belle équipe, parce qu'Uno X c'est une très belle équipe.
Dans une saison, on rappelle, il a changé d'entraîneur, hein. Il y a eu beaucoup de turbulences à Visma, donc il faut voir aussi comment dans cet environnement Vingegaard a envie de continuer à évoluer. On l'avait eu en début de saison où on l'avait vu très enthousiaste aussi, et pour le coup il a plutôt coché les cases, je suis assez d'accord avec toi Pierre, qui nous avait annoncé sur ses ambitions et sur ce qu'il voulait en faire, malheureusement perturbé par sa chute et sa fracture de la clavicule. On a pris du temps les gars pour parler de Vingegaard, c'est normal parce que c'était l'actualité en ce début de semaine, mais comme d'habitude on va faire le briefing de Jérôme.
Le peloton RMC, le briefing de Jérôme.
Jérôme, alors c'est vrai que ça n'a pas beaucoup souri pour nos Françaises et nos Français cet été sur les différentes routes, hein, les Tours de France notamment. Donc quand tu vois une petite éclaircie là, tu t'es dit je peux pas rater l'opportunité, il faut que j'en parle.
Bah oui, parce que on a vibré quand même sur le Tour grâce à notre pépite Paul Sexas. Et on se l'est dit, en ce moment, dans le cyclisme français, il faut s'appeler Paul. Et l'autre Paul était à la maison, puisqu'il a participé au Giro, il a été brillant sur le Giro. Ce branleur nous a dit, avant de finir la saison, je dois gagner une classique World Tour. Eh bien, c'est fait. C'est fait hier à Hambourg. Alors, ce n'est pas la plus étincelante, ce n'est pas les Flandres, ce n'est pas Roubaix. Mais hier, on a vu un Paul Magnier gagner cette course à Hambourg avec la manière, avec une équipe qui l'a emmené, qui a roulé pour lui. C'était le seul des grands sprinteurs pas piégé dans la dernière difficulté du jour à 12 km de l'arrivée. Il était devant. Il n'a pas eu le train espéré parce que Jasper Stuyven a été obligé de prendre la tête à la borne, au kilomètre. Et il a manœuvré parfaitement. Et il a gagné la classique d'Hambourg haut la main. Vraiment avec une facilité, une aisance. Il l'avait déclaré à la suite de son Tour de Pologne. J'ai remis en route en Pologne. J'y reviendrai à la Pologne parce qu'il y a eu des très bons résultats français. Il voulait claquer une classique d'un jour, World Tour, avant la fin de la saison. Il avait pointé Hambourg, il a pointé Plouet. Il a gagné à Plouet l'an dernier. Il peut renouveler aussi ce succès-là. Moi, grand coup de chapeau. Et enfin, on se dit, bah voilà, on n'a pas les victoires d'étape sur le Tour. Bah oui, mais les mecs qui savent gagner, ils étaient à la maison. Et Paul Magnier en fait partie. Il y en a un autre qui était à la maison et que je veux évoquer ici avec vous. C'est Louis Barré. Louis Barré, vainqueur d'une étape sur le Tour de Pologne, qui a été exceptionnel sur le Tour de Pologne. Malheureusement, un peu à côté de ses pompes sur le dernier chrono, même si ce n'est pas sa spécialité. Mais il aurait pu, lui aussi, remporter une course World Tour par étape. Rappelez-vous, avant la victoire de Paul Sexas au Tour du Pays Basque, on était à la recherche de cela depuis plus de 20 ans avec Christophe Moreau. Donc, on est là. Les jeunes Français performent. Et on a vu aussi, hier, lors d'une petite course, et certains appelleront ça une petite course, moi j'appelle ça une très belle épreuve, la Coupe de France lors de la Polynormande, la victoire d'Hugo Page qui a gagné cette épreuve devant un de ses collègues Arnaud Bourou, preuve que l'équipe Cofidis n'est pas morte, elle est là, elle n'est peut-être pas au niveau World Tour, mais elle gagne des courses. Et puis on doit aussi évoquer l'arrivée dans le peloton professionnel d'un jeune, d'une pépite, d'un garçon qui débute dans le cyclisme, qui arrive évidemment du biathlon. J'ai envie de vous parler d'Emilien Jacquelin qui a fait sa rentrée, qui a épaté a priori toute la galerie hier en roulant 120-125 km en tête. Alors certes, distancé sur le final, mais pour un garçon qui débute à peine dans un peloton, qui n'avait jamais trop roulé dans un peloton, le reste il savait faire, chapeau à lui. Mais voilà, l'ensemble du cyclisme français reprend des couleurs.
T'as passé un bon week-end, très, très quoi.
Moi, voir des Français lever les bras, ça me fait plaisir, hein, quelle que soit la course. Comme dirait notre maître Marc Madio, tant que le compteur tourne, tout va bien. D'ailleurs,
est-ce qu'en plus, c'est pas un week-end de cyclisme vrai, ça, Polynormande?
Bah, on aime ça, on aime ces courses-là.
Tour de Portugal.
Tour du Portugal, un peu moins, les vrais vélos.
Mais, malheureusement.
Mais on aime ça, et pour avoir pratiqué ce sport pendant 15 ans, gagner des courses, c'est difficile. C'est très difficile de gagner des courses. Donc, réjouissons-nous. C'est pas le World Tour. C'est pas pour certains les grands tours. C'est pas les grands, très grands monuments. Mais dès que Paul Magny est là, quand même, ça redonne un peu de couleur au cyclisme français. Et je pense que le jour où on aura Paul Sexas pour le général et Paul Magny pour les étapes sur le tour, on va passer un mois de juillet un peu plus savoureux que celui de cette année.
Effectivement. Bon, en tout cas, Paul Magny, c'est sûr qu'il existe tout au long de notre saison sur le peloton RMC, et ça montre...
Sa saison est quand même très haut niveau. Entre Giro, là, franchement,
merci,
chapeau Paul Magny.
Merci les polos, quoi. Vous nous permettez de remplir nos podcasts également. Allez les amis, la Vuelta s'élance de Monaco ce samedi. Il a encore faim, Poggi, après cette saison?
Victoire de Tadej Pogacar au sprint, incroyable victoire exceptionnelle, incroyable, de Tadej Pogacar, le monstre du cyclisme mondial.
Ça y est, celle-là c'est coché, il a enfin gagné Milan-San Remo.
Tadej Pogacar qui, après Milan-San Remo il y a 15 jours, va s'imposer pour la deuxième fois sur un monument cette année après une performance magistrale. 2 sur 2 pour Tadej Pogacar, bien parti dans sa quête. Tadej Pogacar qui franchit la ligne, point vers le ciel. Tadej Pogacar victorieux une nouvelle fois, une troisième fois de sa carrière sur le Tour des Flandres. Impérial aujourd'hui encore le Slovène. Tadej Pogacar, il salue la foule, évidemment il en profite. Le Slovène, quatrième victoire sur Liège-Bastogne-Liège, je le disais, 13e monument de la carrière de Tadej Pogacar. Victoire de Tadej Pogacar sur Liège-Bastogne-Liège. Il n'aura laissé des miettes à personne aujourd'hui, Tadej Pogacar. Non, bah ça y est, c'est terminé. Tadej Pogacar désormais tout seul en tête.
Peut-être qu'après la première étape de montagne, il n'y aura plus aucun suspense ce soir sur la victoire du Tour.
Tadej Pogacar et son maillot jaune ont décidé de placer la flèche et ça fait mal, ça fait très mal. Derrière, personne n'arrive à suivre.
Personne ne peut résister aux accélérations de Tadej Pogacar. Même avec 3 minutes 30 d'avance au pied de l'Alpe d'Huez, personne ne peut résister au retour de cet ovni du cyclisme mondial. Cinquième victoire d'étape sur les routes de ce Tour. C'est tout simplement incroyable ce que fait Tadej Pogacar.
Et lui, plus que les autres, il a été présent toute la saison, effectivement, sur RMC. Tadej Pogacar, paraît-il que Maria Azé, même cet été, quand elle commande un truc, voulait un truc à manger. Tadej Pogacar, tu vois, ça, arrêtez, s'il vous plaît, on peut passer à autre chose. Ça va pas ou quoi?
Ça a marqué, c'est même la nuit.
Les gars, 81e édition du Tour d'Espagne, la Vuelta, qui commence samedi jusqu'au 13 septembre. Donc, ça va partir de Monaco. Le débat qui va nous agiter aujourd'hui, c'est que va laisser Pogacar aux autres, justement, sur la Vuelta. Est-ce qu'il a encore la dalle, l'ami, là? Est-ce qu'il a envie de tout manger encore et ne rien laisser aux autres, comme il l'a montré, sauf à un coéquipier peut-être, hein, parce qu'en fait il est juste ok pour partager avec un pote qui a le même maillot que lui.
Alors franchement, il arrive à mettre Almeida sur le podium vu la saison qu'a fait Almeida. Bravo.
Ah bah bravo. Ah bah oui, c'est-à-dire que le mec vraiment, tu l'invites chez toi pour dresser la table, hein, parce que il le fait très bien, quoi. Avant de débattre, on va parler un petit peu de tout, évidemment, les forces en présence, le parcours, les Français, qu'est-ce que Poggi va avoir face à lui, le parcours, à quoi il ressemble. Je vous dis rapidement, on a 4 pays traversés, évidemment: Monaco, France, donc Andorre et Espagne, avec 4 derniers jours terribles avant l'arrivée finale qui sera à Grenade cette année. 58 000 mètres de dénivelé, c'est l'une des Vueltas les plus montagneuses de l'histoire, hein, c'est plus que sur le Tour et sur le Giro cette année. On va avoir 7 arrivées au sommet sur 10 étapes de montagne, hein, c'est toujours comme ça, la Vuelta, c'est toujours bien énervé en montagne. On aura 2 chronos individuels, donc je le disais au tout début, le tout petit à Monaco, et ensuite un qui sera bien plus long à Jerez de la Frontera, de 32 km tout plat sur la 18e étape. Et voilà, globalement, ce que l'on va avoir, ça va se jouer surtout beaucoup au sud, dans la moitié sud de l'Espagne.
C'est un tour dans Andalousie, XXL.
C'est ça. La Galice, cette année, c'est la Bretagne du Tour de France, quoi. C'est-à-dire qu'ils ne voient rien, quoi, voilà, sur cette saison. Il vous plaît ce parcours ou pas? Vous le trouvez comment, déjà? Tiens, Pierre, tu le trouves comment, ce parcours de la Vuelta?
Hein, je trouve pas mal du tout. Parce que, oui, tu l'as dit, ça monte beaucoup. Après, c'est pas non plus systématiquement à des très hautes altitudes.
Oui, tu as deux étapes qui dépassent les 2000 mètres d'altitude.
Voilà. Mais par contre, ça monte et ça descend énormément. Donc, il y a moyen, si certains coureurs veulent faire une course très ouverte, ce qui ne sera peut-être pas le cas, mais bon, c'est un autre problème, de faire vraiment un truc très sympa. C'est un parcours qui permet beaucoup de choses, en fait, en termes de... Et qui, en plus, effectivement, moi, je trouve ça assez drôle qu'ils finissent à Grenade, qui est quand même... les routes d'entraînement de la moitié du peloton pendant 2 ou 3 mois dans l'année. Donc, ils vont.
C'est voilà. Comme si tu finissais à Tenerife au Teide, quoi.
Voilà.
Donc, il te plaît, quoi.
Il me plaît. Je le trouve, pour le coup, je le trouvais assez ouvert.
Jusqu'à la participation de...
d'un certain Tadej P.
Max, le parcours.
Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est toujours cette manie des organisateurs, et c'était la même chose sur le Tour de France cette année, de mettre une dernière étape de montagne la veille de l'arrivée qui est monstrueuse. Et ça a quand même plutôt tendance à bloquer la course qu'autre chose. Au final,
la fameuse étape reine qu'on attend, tu l'as pas forcément.
Bah,
t'as trop été déçu.
Voilà, c'est ça. J'attends de voir, mais je suis... J'ai un doute quand même. Après, le truc, c'est que comme Pogacar va essayer, on va y revenir bientôt, mais de tout faire pour gagner le plus de temps possible rapidement. Voilà. Mais le parcours est pas mal, mais on peut mieux faire, quoi.
Ouais. Le terrain, pour s'exprimer rapidement, il est là, hein, avec une arrivée à Font-Romeu, notamment, troisième étape, assez rapidement. Jérôme, c'est fini au bout d'une semaine avec ce parcours ?
Ah oui. Ouais, clairement, tu as des Pogacar au bout d'une semaine, il aura plié le game. Bah oui, Andorre, c'est fini. Maintenant, vu le parcours, justement, on aura des très beaux baroudeurs, des très beaux grimpeurs, vainqueurs d'étapes de montagne. Je pense qu'il en laissera quand même quelques-unes parce qu'il ne vient pas avec une équipe qui va tout dominer. Mais lui va plier le jeu au bout d'une semaine. Ça, c'est quasiment réglé d'avance. Après, dans les très belles étapes de montagne, certains pourront s'exprimer et ça peut donner une très belle course. Il n'y aura pas que Pogacar dans cette Vuelta. Malheureusement, pour ceux qui étaient venus pour le général, ils vont faire 2, 3, 4, 5. Là, il va y avoir une belle bataille derrière. Mais le parcours, il est parfait pour les coureurs qui sont en forme à partir de la deuxième semaine. Parce que, encore une fois, avec Pogacar, je pense que la course sera complètement verrouillée. Peut-être les 3, 4 premiers jours, il aura plié le jeu au bout d'une semaine. Et après, il laissera partir. Donc, c'est un beau parcours pour ceux qui auront des opportunités à prendre dans la fin de deuxième, début de troisième semaine et cette fameuse avant-dernière journée en haute montagne. Peut-être que là, il voudra faire un rappel avant les mondiaux ou là, peut-être qu'il voudra gagner. Mais sinon, je pense que ça va être très ouvert parce qu'il n'y va pas pour tout dominer, tout vouloir gagner parce qu'il laissera trop d'énergie
pour avoir les mondiaux.
Ouais, bien sûr.
Oh, c'est un jour les mondiaux, non ? Il peut se faire un truc tranquille.
Non, mais
quoi.
C'est sûr
que... Non, mais il n'a pas l'équipe pour ça.
Oui, alors. Oui. Je suis d'accord avec toi, Jérôme, sur le fait que il va essayer de plier le truc rapidement et essayer d'avoir 2-3 minutes d'avance à la fin de la première semaine. Et il y a le parcours pour. Donc, par exemple, vous voyez, le chrono déjà. Alors, c'est un chrono tout plat à Monaco. C'est pas comme au Tour 2009 où il y avait eu la Côte de Beausoleil dans la première étape. Non, là, c'est
pas tout plat. Ouais.
Tout plat. Ensuite, l'étape à Font-Romeu, il peut prendre déjà un petit peu d'avance.
Il peut prendre son matelas pour après maîtriser.
À Andorre, en fait. Pareil. Et puis, encore une ou deux étapes. Il y a une arrivée, l'étape 7, juste avant la journée de repos. Pareil, il aura son petit matelas.
Le départ de cette Vuelta nous fait un peu penser à ce qui s'est passé sur le Tour. Sauf que c'est plus dur. Et il aura moins d'adversité. Donc clairement, on ne voit pas comment il ne sera pas en rouge au bout d'une semaine et surtout avec déjà un sacré matelas d'avance.
Et je vous le dis d'ailleurs, un chrono de 32 km à 4 jours de l'arrivée qui aurait plu à un Jérôme Coppel, par exemple.
Ah bah là, pareil, c'est tout
chrono
plat,
à Jerez. Et je disais juste, ça arrive à Grenade, peut-être qu'il commence à être inspiré par le Tour de France avec
une belle arrivée à
Montmartre. Non, mais c'est vrai que ce n'est pas une étape de sénateur, la dernière étape, c'est
une étape
casse-pattes. Hein. Franchement, ça pourrait être un parcours de championnat du monde.
Non, alors ça, je pense qu'il n'y a pas assez de dénivelé pour un parcours.
Et ça fait 1300 km
de dénivelé. Ouais, mais c'est pas mal.
Elle est un peu courte aussi, mais tu l'as fait deux fois. Ça commence à ressembler à quelque chose, effectivement. Et surtout avec un enchaînement de côtes assez casse-pattes dans un circuit urbain et avec pas mal de virages et par ailleurs, non, c'est par ailleurs très beau, donc ça va être assez chouette comme dernière étape.
Évidemment, avec une donnée, c'est la chaleur. On verra. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça sur la Vuelta, ouais. Mais on verra cette année. Là, bon, il y a eu beaucoup d'incendies en Espagne, un peu comme en France également, et c'est vrai que la chaleur est toujours un élément important sur le Tour d'Espagne. Tu l'as fait une fois le Tour d'Espagne, non, Jérôme, d'ailleurs?
Ouais, j'ai pris le départ, quoi. Ouais. J'ai dû faire 10 étapes, 11 étapes.
Ah ouais?
Pas plus.
Quoi, ça t'a pas plu, en fait?
Je m'a pas plu, mais à l'époque, c'était un peu la punition à l'époque d'aller à la Vuelta. J'avais pas vraiment prévu d'aller à la Vuelta. Et le manager général de l'époque, on était tout juste en World Tour, je pense que c'est 2005 ou 2003, je sais plus. Bref, il avait décidé que si je faisais pas un bon tour ou un très bon tour.
2006.
Ouais.
T'abandonnes à la 11e étape.
Ouais, c'est ça, 11 étapes. Je m'en rappelle. Et après, je dois être très honnête avec vous, quand j'ai pris le départ de cette Vuelta, j'ai regardé quelle était l'étape la plus proche de la maison pour rentrer.
C'est pas du tout professionnel, ça. Ou au contraire, c'est très professionnel.
Alors, ce qu'il n'était pas non plus, c'est de punir son coureur en lui disant à la fin du tour, ça nous a pas plu ce que tu as fait, tu vas à la Vuelta dans 15 jours.
Ça t'a pas coûté très cher en essence, en tout cas.
C'est mon frère Sébastien qui était sur la course, on avait prévu un peu.
Merci Seb.
On a fait un très beau retour, on a dormi à Biarritz, c'était très sympa.
Et les routes espagnoles, elles te plaisaient pas?
Dégueulasse, à l'époque c'était sur l'autoroute, des grandes lignes droites, tout, c'était l'enfer cette course. Départ, je crois que c'était à Malaga. T'allais chercher les bidons à la bagnole, tu remontais au cul du peloton, il était chaud.
Départ à Malaga, ouais.
Non mais toi qui parfois dis ouais, bon, c'est vrai que sur la chaleur, voilà, on a l'habitude. En Espagne, c'est quand même chiant, quoi, sur la Vuelta.
Ouais, il fait vraiment très très chaud là. C'est pour ça que j'ai défendu aussi le côté la chaleur, ça va, on connaît. Et à l'époque déjà, il faisait chaud parce que moi, cette Vuelta m'avait marqué. Et franchement, au bout de 10 jours, j'étais rincé par la chaleur. C'était un cagnard pas possible. Ouais. Et d'ailleurs, à l'époque, la Vuelta finissait avec très peu de coureurs. Je me souviens d'une journée de repos, veille d'une journée de repos d'ailleurs, un peu animée un soir, dans un endroit avec peu de lumière et beaucoup de spots et un peu de musique.
Qu'est-ce que c'est que...
Ça sortait à la Vuelta à l'époque, mais c'était un autre temps, Georges. C'était un autre temps.
Oui, Andy Schleck s'en souvient. Ouais.
J'étais en compagnie d'un futur champion du monde du contre-la-montre. Je peux vous dire que ce soir-là, j'avais pas misé sur lui. Et deux jours après, il gagnait une étape à la Vuelta.
Sacré Tony Martin.
Évidemment... Non, c'était pas tout.
D'accord. Bon, en fait, t'as de bons souvenirs finalement sur la Vuelta.
Ah oui, jusqu'à la 11e étape.
T'étais vraiment pas du tout vu pour courir quand même. Bon, bah écoute, j'espère que t'as été payé à la fin du mois quand même. Hein.
Oui. C'était
Vinokourov qui avait gagné.
Cette Vuelta,
ouais.
Attention, on en parlera peut-être dans les
jeux. Fabien Cancellara avait gagné le chrono et
d'accord.
Une étape.
Il avait été champion du monde
ensuite.
Ah d'accord. C'était Fabien?
Bien sûr.
C'était Spartacus. Eh ben dis donc.
Fabien Cancellara, Pippo Pozzato et d'autres. C'était très sympa.
J'imagine très bien
l'ambiance.
C'est mon meilleur souvenir de la Vuelta.
Eh ben écoute, on les invitera un jour pour avoir les coulisses.
On peut.
81e édition de la Vuelta, donc qui commence samedi à Monaco. On a détaillé le parcours. Qui sont les autres à part Pogacar? Je vais vous les donner. Pour le général, on pourrait citer Primoz Roglic qui a gagné 4 fois. Je rappelle, il est co-détenteur du record de victoire. Il y a Félix Gall qui est là, Oscar Only, Henrik Maas, je vais vous les citer, Movistar, Mathias Kielmose pour la Lidl Trek, João Almeida donc qui est là avec Poggi, tu ne seras pas leader, João, il y a Poggi, Carlos Rodriguez avec Net Company Ineos et Tian Heuvelbroeck qui a une drôle de saison depuis longtemps, mais encore plus depuis qu'il est chez Movistar. Qui Poggi va laisser monter sur le podium avec lui, les gars, Pierre?
Alors, moi, qui je vois, parce qu'on rigolait sur Almeida, mais le pauvre, il a fait deuxième l'année dernière, mais là, cette année, il a quand même pas beaucoup de références. J'essaie de réfléchir s'il a fait un résultat cette année, mais je crois pas. Je pense que les deux plus forts pour finir sur le podium, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, ce serait Félix Gall et Oscar Henley. Qui ont montré le plus sur le Tour du Burgos notamment.
Félix Gall en début de saison aussi, on l'a bien vu.
Après, et Mathias Kelmoseux, je pense que l'enchaînement des tours Tour Vuelta risque d'être un peu plus compliqué pour lui que pour Pogacar quand même.
D'accord. Donc tu mets quoi? Tu mets Pogacar?
Moi je mets un Pogacar, Gall. Deux Gall, trois Only ou deux Only, trois Gall.
Max?
Je suis totalement d'accord sur le 2 Gall, 3 Honley.
D'accord.
Pour moi, Félix Gall, actuellement à la pédale, sur ce qu'il a montré depuis quelques semaines, est très, 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 très fort. Oscar Honley, il a raté le tour. Et
une drôle de saison aussi à Honley. Hein,
ouais, mais il a quand même de très bons résultats sur cette saison. Almeida, je regardais, sa meilleure performance, elle date de février, c'était autour de la communauté de Valence. Et depuis, c'est abandon au Dauphiné, abandon en Pologne et 38e du général du Tour de Catalogne. C'est quand même très compliqué, Almeida. Après, il y aura peut-être une volonté de Pogacar de le faire monter sur le podium, mais encore faut-il qu'il puisse le faire.
Vous mettez pas un Espagnol là, sur la Vuelta, on voit parfois Jérôme.
Ouais, Enric Mas.
Enric Mas,
il y a toujours un Espagnol qui marche à la Vuelta. Enric Mas, il a montré de très belles choses à Burgos. Certes, il est en deçà et sous le niveau des Gall et des Only, mais le Burgos, c'était il y a une semaine. Il en restait deux et on sait que ce garçon-là, à la Vuelta, il est là en général. Donc, je suis d'accord avec vous. Moi, je mettrais plutôt Félix Gall deuxième et Mas troisième. Only, j'ai l'impression que sur trois semaines, ça sera toujours compliqué. Il a souvent des fautes de concentration. Il lui arrive souvent à des pépins. Et...
Enfin bon, on l'a vu sur le tour l'année dernière, ça allait quand même.
Non, mais il est là, évidemment. Mais je pense que Mas, il a 31 ans, Enric Mas, il a de l'expérience. Alors, il y a Sian Utebrook, mais ça va pas trop le gratter, je pense. Il va vite faire comprendre à l'autre que c'est lui l'Espagnol et là, c'est lui qui commande. Donc, je le vois bien sur le podium. La Movistar a besoin de briller sur son tête.
Utebrook, il faut encore qu'il finisse la première semaine.
Oui, voilà. On peut pas dire que ce soit l'assurance touriste, ce garçon-là, quand même.
Ouais, effectivement. Arrivé cette année
et je reviens sur ce que tu disais. Roglic a quand même déclaré là, aujourd'hui ou hier, qu'il allait sur la Vuelta, pas pour gagner le général. Hein, donc, comme ça, pour jouer le général. Ouais, comme ça, moi, c'est réglé. Déjà, quand il y va pour jouer le général, c'est compliqué.
Bon, attends, alors, il a gagné 4 fois le mec.
Non, mais là, je te dis, ces deux dernières années. Ouais. Il est moins régulier. On ne sait pas trop ce qui est Primoz Roglic, ce qu'il est devenu depuis 2 ans maintenant. Bon,
enfin, après, il est sur sa 37e année, hein, Roglic. Hein. C'est vrai que le projet Red Bull Bora-Hansgrohe, tu ne tournes plus autour de lui. Hein.
On parle d'un départ d'ailleurs. Donc,
il irait chez Lotto Intermarché.
Oui.
A priori.
A priori.
Là, c'est effectivement barreau d'honneur pour Roglic. Non,
Je
vais faire la moue.
Bah oui, toujours. Ouais. Mais
c'est une philosophie de vie.
Non, mais Roglic, il a fait ce qu'il avait à faire en 2024. Il a gagné la Volta pour la quatrième fois.
Oui, il n'a plus rien à prouver, c'est ça que tu veux dire.
Ça s'arrête un peu là, effectivement, son aventure. C'est déjà bien qu'elle continue encore. Et que d'autres équipes misent sur lui en 2026. Mais
il y a un coureur qu'on n'a pas cité, les garçons. Il va falloir s'en méfier quand même si il a déclaré lui-même, j'ai des collègues blessés, je peux pas jouer le général. Quand t'as Pogacar et son équipe qui vont gérer tout, c'est Carapaz.
Oh,
Carapaz,
oui,
attention à lui quand même pour le podium, parce que faire troisième d'une Vuelta où il y a deux ou trois équipes qui vont gérer la course, il n'a pas besoin de 14 équipiers, Carapaz. Hein. C'est le meilleur grimpeur de la planète, quasiment, derrière Poggi, certainement, en tout cas sur ce qu'on a vu sur le
tour. Ouais.
S'il a la forme, et il l'aura, et qu'il ne lui arrive rien dans les étapes un peu piégeuses, et qu'il n'a pas besoin d'équipe, en montagne, avec un parcours comme ça, il peut très bien figurer sur le podium de la Vuelta. Hein.
Le parcours lui correspond à merveille, à Carapaz.
Ah bah là, j'imagine déjà notre confrère
sud-américain.
Carapaz, ce serait la folie, hein, je vous préviens. On va devenir insupportable si jamais il y arrive. Mais c'est vrai que... Non, mais vous avez raison d'en parler, parce que Carapaz, on l'oublie toujours un peu. Il est toujours là,
tapis dans l'ombre, avec son maillot à poids.
C'est un peu ces mecs là, comme Pitcock, genre à chaque fois on dit c'est vrai qu'il y a Pitcock, ah bah déjà il a fait 3. Tiens, sur les forces en présence sur cette Vuelta, j'ai noté que parmi les joujoux préférés de Poggi, ils sont là. Wout van Aert, c'est le seul qui l'a tapé cette saison, sur Paris-Roubaix. Wout van Aert est là. Mats Pedersen aussi est présent, a priori, sur la start list du départ. À quoi ils vont servir, les gars, franchement, Pedersen et van Aert? Est-ce que Poggi, vous pensez, va aller s'amuser sur certaines étapes avec eux juste pour se marrer? Ou est-ce qu'ils vont avoir un vrai rôle sur cette Vuelta, ou ils sont juste là pour tourner les jambes avant les mondiaux?
Pour essayer d'avoir un petit peu des victoires d'étape.
Attention, ces deux énormes animateurs de course, notamment, souvenez-vous, il y a 2 ans, la fameuse Vuelta gagnée par Roglic en 2024. Wout van Aert, avant de tomber et de s'abîmer le genou, il a été exceptionnel. Il avait, à un moment, il avait le maillot à poil, le maillot vert.
Van Aert,
c'était le grand animateur de la course. Mats Pedersen, bon, le souvenir de Tour de France est encore très frais. Dans le genre, je vais dans tous les coups et qui fait partout.
Je pense que c'est typiquement le mec là qui va venir, c'est la Vuelta prépa pour les mondiaux, quoi.
Ouais, mais la prépa...
Et alors, il arrête au bout de 10 jours.
Pour Pedersen, c'est compliqué, hein, les mondiaux. Ça va être compliqué, ouais. Ah ouais, pour Pedersen.
Bah ouais, mais il voulait pas que Vingegaard soit là, et maintenant...
Parce qu'il estime qu'ils ont assez de main-d'œuvre pour Skelmose. Hein. Mm. Le leader de l'équipe du Danemark au mondial, ce sera Skelmose. Lui, ça va être trop dur pour lui. Hein. Ça va être trop compliqué. Le parcours du mondial, c'est quasiment une étape de moyenne montagne. Alors, tu dis sur le tour, il est devant. Oui, c'est vrai. Mais sur le tour, c'est pas un mondial. Il n'y a pas un titre à la fin. Sur toutes les étapes. Donc il va être très costaud cette Vuelta, il ne va pas la gérer de la même manière que certains pourraient le gérer en vue d'un mondial. De même que pour Van Aert. Van Aert, pour moi, le parcours de Montréal est trop difficile aussi. Hein,
ce sera peut-être plutôt Remco le leader.
Plus Remco,
je crois qu'il va être là. Il va y avoir là vraiment.
Ils vont nous faire le show. Ils vont nous faire le show.
Bien sûr.
Je pense.
Je suis persuadé que Van Aert et
son Van Aert même hier, le championnat de Belgique de gravel, il en a mis partout.
Mais oui,
super cette Vuelta.
Il met un dossard.
Et t'as le parcours qui va très bien, et pour Pedersen et pour Van Aert, pour aller se mettre dans des coups et aller chercher des victoires.
Imagine si il n'y avait pas Pogacar, comment elle serait fantastique.
Mais oui. La victoire finale, ça joue entre Pedersen et Van Aert qui s'enflamme. Donc les gars, vous y croyez, en tout cas les.
Ah, moi, je suis persuadé qu'ils vont aller essayer de chercher une victoire.
Pour voir s'il reste de l'essence dans le moteur de Mads, quoi. Max Pedersen.
Il a été blessé en début de saison, il n'a pas pu faire les classiques. Il y en a de l'essence, et ce mec-là, t'as vu le tour qu'il a fait, il y a de l'essence, même quand tu crois qu'il n'y en a plus.
Oui, c'est comme Carapace.
Ils vont sur cette course-là pour s'éclater, pour gagner des courses. Et c'est les garçons qui vont rarement. Moi, je n'ai jamais vu prendre le départ en jambière. Hein. C'est les mecs, ils y vont, ils donnent tout.
Ils sont là pour aller chercher des victoires à chaque fois, bien entendu. Bien sûr.
Et je pense que Mads Pedersen a dû entendre la petite musique de les mondiaux, c'est trop dur pour toi, etc. Ce que vient de dire Jérôme, et je pense que c'est exactement le genre de truc qui doit le
titiller.
Ouais. Quand je dis que c'est trop dur pour lui, il va pas être dans les 10 premiers du peloton à péter. Hein. Attention, hein. il sera forcément un acteur important dans la course. Maintenant, je pense que le Mont-Royal, au bout de 220 bornes, pour Pedersen, c'est trop dur. Voilà.
Non, mais c'est le genre de. Et lui et Van Aert, c'est le genre de. Pour les équipes comme. On en reparlera à ce moment-là, mais pour les équipes comme la Belgique et le. Et le Danemark, c'est vraiment les cartes que tu peux balancer avant, en fait. C'est des mecs qui peuvent partir, si Pogacar ne part pas à 115 bornes de l'arrivée, hein, mais c'est des mecs que tu peux faire partir à tôt, en fait, et qui vont être une menace qui va obliger tout le monde à rouler.
Les gars, donc là, on a parlé des joujoux de Poggi. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. Hein. Vous le voyez, effectivement, dynamiter la course dès la première semaine parce qu'il y a le terrain, parce que le parcours est taillé pour lui.
Et parce que lui, il a l'objectif des mondiaux. Et donc, peut-être se préserver en troisième
semaine. Donc, c'est
semaine.
Ça ce que j'allais vous dire. Parce que, c'est-à-dire que vous ne le voyez peut-être pas, Poggi, comme on a pu le voir sur d'autres grands tours, à vouloir avoir 4, 5, 6 victoires d'étape parce que justement son gros objectif est derrière, même si attention pour Poggi, j'imagine la Vuelta c'est un objectif, hein. Il a jamais gagné de sa vie, ça lui permet de terminer le jeu des grands tours comme l'a fait Vingegaard cette année, comme ça en plus il mettrait une petite nuquette à Jonas en disant hey, moi aussi tu l'as fait cette année, mais je l'ai fait cette année moi aussi, donc non, mais vous le voyez cannibale ou pas, franchement?
Alors je l'espère un peu, c'est un peu bizarre à dire, mais je l'espère faire un tour à la Jonas, en fait, faire une Vuelta à la Jonas, c'est-à-dire que j'assure le maillot rouge et je laisse les autres et je regarde ça d'assez loin en me préservant un peu. Après, on dit ça...
Il va obligatoirement aller chercher 2-3 victoires d'étape, bien entendu.
Et il va obligatoirement avoir 10 minutes d'avance à la fin, ça risque d'être ce qu'il a fait au Giro.
C'est exactement le modèle que j'ai en tête, c'est le Giro de l'année dernière.
Ça fait quand même beaucoup. Hein.
Bah, tu dis un grand tour à la Vingegaard, il a quand même gagné 5 étapes cette année sur le Giro, hein, Jonas.
Oui, c'est pour ça que je te dis. Mais il ne s'est pas mêlé de tout. En fait,
oui.
C'est ça que je reproche.
C'est sûr qu'il est chiant Poggi sur ça. Il se mêle de tout. Ouais.
Il a
préparé avec beaucoup de finesse, hein, et puis de professionnalisme. Il a été donné des casse-dalles à Urska dans le Ventoux. Il a été faire un show chez lui en Slovénie. Il a fait un peu de gravel. Il est allé à l'arrivée à Monaco avec le bob sur la tête. Il est les stages en altitude. C'est même pas la peine de lui en parler.
Mais t'imagines Henrik Maas qui se prépare à ça toute la saison par exemple.
C'est dire
il
la
voit
l'autre
qui arrive avec son bob au départ.
C'est simple. La Vuelta sera son stage de préparation XXL pour les mondiaux avec un maillot rouge à la fin.
Tu le vois avec quelle attitude, toi, Jérôme?
Moi, je le vois comme l'ont dit les copains, c'est-à-dire que je pense qu'il va faire un tour à la Vingegaard comme il a fait au Giro. Il va gagner des étapes, il va gagner peut-être 4-5 étapes au sommet. Je vois surtout qu'il va les éclater la première semaine et qu'il veut se mettre à l'abri. Par contre, il ne va pas pouvoir se mêler de tout parce qu'il a le mondial effectivement en ligne de mire. Maintenant, ça reste Pogacar. Et comme Van Aert et Pedersen, ce garçon-là, quand il met un dossard, il veut tout gagner. J'espère juste qu'il n'y aura pas de retard à l'allumage. Je l'espère vraiment pour la Vuelta. C'est-à-dire que j'espère vraiment qu'il sera en forme dès le début. Parce que si il broute un peu, il ne prendra pas tous les risques. Et là, ça pourrait être une Vuelta très ennuyante. Parce qu'après, quand il va remettre en route, il voudra tout gagner, rattraper le temps et vraiment écraser cette course.
Ah, tu veux dire, toi, tu n'exclus pas le fait qu'il galère effectivement.
Il n'a pas quand même eu la préparation idéale. Enfin, là,
au début, en tout cas. Ce sera peut-être un grand tour un peu plus diesel. Pas forcément ce qu'on a l'habitude de voir avec Poggi.
Possiblement, j'en sais rien. En fait, là, maintenant, le départ est à Monaco. Il doit certainement être à Isola 2000 en train de travailler.
Et puis, c'était pas forcément à son programme en plus en début de saison.
J'ai l'impression qu'il le prend comme ça, à la cool. Bon, on gagne pas une Vuelta à la cool, même si on s'appelle Tadej Pogacar.
Oui, même si ça part chez toi.
Alors, il va gagner. Mais sera-t-il en forme et écrasant dès le départ? J'en suis pas sûr.
Je peux mettre mon petit pari. Il y a la quatrième étape avec le port d'Envalira qui est à une trentaine de kilomètres après le départ. Il attaque dans le port d'Envalira, il fait une échappée fleuve, et il va gagner l'étape et il prend 5 minutes sur tout le monde.
Et il va jusqu'à Grenade. Comme ça, direct, il dit ah ben quoi, les gars, ça marche pas comme ça, c'est pas le premier qui arrive à Grenade. C'est intéressant de voir un petit peu comment vous imaginez ce Pogacar. C'est vrai que là, pour le coup, on ne voit pas dans une préparation spécifique comme on a pu le voir pour le Giro la fois précédente ou avec l'enchaînement du tour, on imaginait très bien qu'il allait pouvoir être à la hauteur. Il y a des Français, évidemment, sur cette. Vuelta, avec Léo Bizio qui est là pour l'équipe Décathlon CMA CGM, avec Axel Laurence notamment qui a été un des animateurs français depuis le début de la saison. Ouais, avec Valentin Paré-Peintre qui aimerait terminer de gagner une étape sur les trois grands tours pour la Soudal Quick-Step. Guillaume Martin, Clément Berthet est là pour la Groupama FDJ United. Quel Français vous imaginez protagoniste? J'avais écrit quel Français Poggi va laisser s'exprimer. En fait, c'est vrai, qui a le plus la capacité à troubler sa vigilance s'il a décidé d'être dans le contrôle.
Alors, moi, j'ai l'impression, pour moi, les deux qui ont le plus la capacité à faire quelque chose, c'est malheureusement ceux qui ne vont pas avoir le droit de le faire, c'est-à-dire Léo Bizio et Axel Laurence, qui sont tous les deux quand même au service de deux...
Deux leaders
qui vont jouer le général.
Pour Bizio et...
Voilà, Bizio, il va
et
d'abord...
Only et même Rodriguez même pour...
Et donc, s'ils sont libres, c'est parce qu'il y a eu un problème pour leur leader. Sinon, j'ai un peu peur qu'ils soient au service de leur leader et que du coup, s'il faut en donner un nom, je donnerais celui de Valentin Paré-Peintre qui, pour le coup, lui, aura vraiment sa carte pour, et aura vraiment la
sur
place.
Sur cette arrivée au sommet, Pogacar va pas en gagner 7, donc il y aura peut-être une place pour se faufiler et aller en gagner une.
Non, mais puis seront-ils tellement au service des leaders si Pogacar est tellement devant, en fait?
Gal, il a besoin de Bizio, quand même.
Oui,
Bizio pour faire podium, quand même. Jérôme. C'est pour moi la meilleure carte française, Léo. Mais maintenant, alors on verra. Il l'aurait pas emmené à la Vuelta s'il y a eu un problème, parce qu'on le sait, il va quitter cette formation. Donc il y est au départ. Il vise un podium. C'est quand même une formation. Si Paul Sexas, malheureusement, avait été ce podium du Tour, ils auraient fait podium à tous les grands tours, puisqu'ils visent encore un podium et ils y étaient déjà sur le Giro. C'est dire si cette équipe a pris une autre dimension. Moi, j'espère vraiment que Clément Berthet nous fasse une Alex Baudin. Voilà, il a été blessé dès la première étape du Tour avec un trauma crânien. Il a dû abandonner prématurément. Il était très, très fort au championnat de France. Il sait se préparer. C'est un garçon qui déçoit rarement. Il est très professionnel. Donc, je peux imaginer que sur une Vuelta comme celle-ci, il puisse s'exprimer. Et Valentin allait chercher le triplé Giro, Tour, Vuelta, une étape dans chaque des grands tours. Mais la carte majeure et principale pour exister tout au long des trois semaines, c'est bel et bien
Léo Bizio.
Mais quid de savoir ce qu'il va faire, est-ce qu'il va vraiment se mettre au service, est-ce qu'il va avoir de la liberté? Ça, c'est pas nous qui allons choisir.
Bah, Berthet a clairement manqué à la Groupama FDJ sur le Tour de France.
Il n'y a pas que lui qui a manqué.
Et a quand même une bonne chance, je pense, sur des échappées. C'est un bon profil pour aller chercher quelque chose.
Vous vous rendez compte que l'année dernière, à peu près à la même époque, David Gaudu gagnait une étape de la Vuelta.
Oui,
non, mais t'as raison,
il a fait 10 courses. Cette année, il a fait mi-course à la Polynormandie, il a abandonné.
Ouais.
C'est dingue.
Et il n'a pas été sélectionné pour le Tour de France au dernier moment. Non, non, mais c'est vrai que ça, c'est terrible de voir à quel point les carrières aujourd'hui.
Et pas une étape avec une échappée parce qu'il avait 20 minutes.
Hein, il a claqué
tout le monde en haut.
Ouais. C'est vrai.
À la pédale.
Non, mais c'est vrai, c'était important de le rappeler que c'était il y a seulement un an, bien sûr. Je pose juste une petite dernière question, les gars. J'avais noté, est-ce que cette Vuelta peut être pire que le Giro et le Tour pour le spectacle ? Non, mais en fait, je sais pas, vous m'avez bien motivé, en fait. Vous pensez que la Vuelta peut nous donner des moments de frisson, Pierre ?
Ouais, largement.
Tu penses que tu vas plus t'éclater que pour le Tour d'Italie et le Tour de France ?
Ouais. C'est pas très compliqué, déjà. Ouais, donc la barre est pas super haute.
Déjà, il fait moins chaud, donc quand tu regarderas la télé, ce sera plus sympa.
Et ensuite, je serai au travail.
Ouais. Il fait bon au travail.
Mais non, je pense qu'il y a vraiment, et ça aurait pu être encore plus ouvert, mais je pense qu'il y a vraiment effectivement beaucoup plus d'incertitudes et beaucoup plus de scénarios possibles qui peuvent arriver que sur le Giro ou
sur le Tour de France.
Le Tour de France.
Jérôme.
Pierre, tu sais que je croise énormément de monde ici où je suis un peu au soleil et à la plage. Et il y a beaucoup de gens qui ne sont pas du tout de ton avis. Et moi aussi, j'ai été surpris. Il y a beaucoup de gens qui ont kiffé le Tour de France. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais qu'est-ce que c'était bien cette année. Alors, il y a eu les petits Français, ils se sont battus, il y avait du spectacle. Voilà. Donc, il y a des gens qui ont kiffé le Tour. Sache-le, parce que écoute, moi, j'ai été la première fois surpris.
Je kiffe toujours le Tour.
Ouais. Mais en fait, il y a des gens qui ont trouvé ça spectaculaire. Je pense que la présence de Paul Sexas
a ravivé tout
exactement. Exactement. Moi, je pense que cette Vuelta va être aussi très excitante. Je l'espère. Je demande juste à Poggi de claquer le game dès la première semaine. Vas-y, mets-toi devant, prends le maillot, éclate-les tous au bout d'une semaine et après déroule et laisse faire les autres et il y aura du spectacle.
J'avais le doute en rentrant dans le studio un peu comme toi, vous m'avez aussi convaincu. Donc vous avez bien fait votre boulot, les gars.
Non, mais en fait, prends beaucoup d'avance au début, Poggi, et après, fais-nous, après voilà. Fais des trucs avec Van Aert et Pedersen.
Aller au bout, voilà. Fais des trucs avec les gars quand on y va, quoi.
C'est ça. Inventez quelque chose, les gars, et puis on verra bien. Voilà pour la Vuelta, donc il commence samedi, évidemment, à suivre sur rmcsport.fr et sur notre antenne. Les week-ends, bien sûr, on va suivre cette Vuelta. On sera sur place à Monaco, évidemment, pour le grand départ et pour écouter les témoignages. Et notamment Tadej Pogacar qui sera présent. Donc pour savoir que va laisser Poggi aux autres sur la Vuelta. Tadej, j'espère que tu nous as écouté, que ça t'a donné quelques idées. Voilà, en tout cas. Allez les amis, avant de se quitter, évidemment, on passe la flamme rouge pour le sprint final du peloton.
Le sprint final du peloton RMC.
Vous le savez, c'est notre quiz de fin d'émission. Jouez avec nous, tiens, vous aussi, là, en nous écoutant en podcast. Regardez si vous êtes meilleur que la Dream Team du peloton RMC. 10 questions, évidemment, vous jouez chacun pour votre pomme sur ce quiz spécial Vuelta, évidemment, les gars. Vous imaginez, j'ai pas été très original pour préparer. J'aurais pu faire des questions que sur la Polynormande.
Là, j'aurais plus de chance.
Voilà. Et puis en fait, finalement, j'avais pas le numéro de Daniel Mangas. Donc, ça c'était trop compliqué d'aller chercher des infos. Si je l'ai en plus, on l'appellera un jour, tiens, Daniel Mangas. Je ferme la parenthèse.
Légende.
Effectivement, s'il en aime. Allez, les amis. Une seule réponse possible, s'il vous plaît, à cette première question. Primoz Roglic. Et le recordman de victoire sur la Vuelta avec 4 succès. Avec 4 succès à la fin de la Vuelta. Qui partage ce record avec
Roberto Eras ? J'ai dit le prénom.
Oui, c'est vrai.
Ouais, allez, Pierre, accepté par Kylian Verhoeven, notre producteur. Comme ça, je n'ai pas la responsabilité. Voilà. Combien ? Question à une seule réponse. Combien de Vuelta a remporté Bernard Hinault ?
2.
Jérôme Pinault. Jérôme, en ce moment, t'es pas mal sur tous les jeux d'RMC. Et je pense que t'as fait un stage en altitude. C'est incroyable.
C'est l'altitude du balcon face à la plage, ça.
Oui, c'est un peu ça.
Un point pour Pierre, un point pour Jérôme. Et troisième question. Quel coureur français a remporté 4 fois le classement de la montagne de la Vuelta ?
David Moncoutier.
David Moncoutier, Jérôme, parle plutôt. Aïe, aïe, aïe. Max, t'es là, mais.
Ouais, mais
Ouais,
t'es le sprinter français qui s'est toujours sauté sur la ligne. Allez, deux, je mange.
C'était sa course à mon côté, des boulevards tout droit, des montées d'armes, pas de spectateurs, tranquille.
En fait, je savais que la fin de mon été, c'était toujours ça. Je voyais David Moncoutier gagner quelque chose. Voilà. Ou mon pharaon plutôt dans la semaine.
Avec son maillot Cofidis bien raccord, avec les pubs de la Vuelta.
T'as raison. Sean Kelly et Alejandro Valverde ont remporté 4 fois le classement par points. C'est le record. Un Français partage le record avec qui?
Laurent
Jalabert, Pierre, 2-2-2. Max, toujours 0. Combien de fois le plus proche l'emporte si vous n'avez pas la bonne réponse? Enfin non, vous donnez des réponses jusqu'à avoir la bonne. Combien de fois Valverde est monté sur le podium de la Vuelta?
7.
7 fois. C'est quoi, c'est ton idole? C'est ton idole, Valverde?
Pas du tout, en plus.
Alejandro Valverde, qui avait un chien, je vous rappelle, il s'appelait Pity. Je le sais parce que c'était sur la poche de sang, hein, quand il a été attrapé par la patrouille. c'est comme ça qu'on l'a confondu. Voilà. C'était gratuit, hein, mais bon, c'est comme ça. Laurent Jalabert est le Français qui a le plus gagné d'étapes sur la Vuelta. Combien de fois a-t-il levé les bras sur la Vuelta?
12.
12.
Non, c'est plus.
13.
Non. 15.
14.
Allez les gars,
17.
18.
18 Max, à égalité, 2-2-2, les gars. Il reste 4 questions, nous sommes en 2026. Qui a gagné la Vuelta il y a 30 ans, en 96?
Marino Lerareta?
Non.
Olano?
Non, mais c'est cette époque-là.
Lidurel?
Non. T'as dit quoi?
Zule?
Alex Robinger. Zule, bien sûr, Alex Zule. 3 points, Max qui prend les devants. T'es parti de loin, sprint long, hein, Max. Un Russe a gagné la Vuelta en 2007, c'était qui?
Menchov?
Menchov, Max, c'est incroyable ça. T'es là dans l'humiliation, c'est ça? Eh les gars, je vous laisse 5 km d'avance et après j'enchaîne. Qui a fini meilleur grimpeur l'an passé?
Jevine.
Jevine, oh là là, c'est bon, là c'est un boulevard. Et qui a fini 3ème l'an passé derrière Vingegaard et Almeida?
Ah merde. Ricciatello.
Mas?
Non.
Ricciatello.
Non, Ricciatello, non.
Non, c'est le...
C'était celui auquel on pense jamais, mais qui
est là. Carapaz ?
Non.
Ah non,
Tom Pitcock. Allez, Max qui a remporté haut la main. Ce jeu. Bravo, Max Martinez. Ça, c'est un sprint, ça. Ça, c'est un vrai sprint de patron.
Décoller.
Ah ouais. Sprint de patron, les gars. Merci, Jérôme. Merci, Pierre. Merci, Max.
Merci,
merci à vous toutes et tous. Vous êtes de plus en plus nombreux à prendre part en peloton RMC sur les réseaux sociaux également. Hein. Peloton RMC, c'est l'arrobase pour nous retrouver sur toutes les
peloton
plateformes.
RMC.
Et pour débattre avec nous, restez connectés avec nous. La Vuelta, c'est à vivre sur les différents supports d'RMC, évidemment. Merci.
Le peloton RMC.